Donc bonsoir à tous d'avoir aussi, merci d'avoir traversé la tempête et la neige pour venir écouter cette belle conférence sur les peaux acoustiques dans les églises médiévales et modernes, historiographie, filiation et premières interprétations, un travail de Bénédicte Palazzo-Bertolo et Jean-Christophe Vallière qui va arriver. Donc on va commencer par Bénédicte et je vais passer le micro à notre ami du CECM pour présenter sa collègue.
Je ne vais présenter que la conférencière, puisque le conférencier n'est pas encore là. Donc Bénédicte Palazzo-Bertolon est bien connue au Centre d'études médiévales, puisqu'elle y est chercheure associée depuis quelques années maintenant, bien connue aussi des archéologues de Poitiers, puisqu'elle a travaillé successivement sur Vouneuil-sous-Biard, sur l'hypogée des dunes et d'autres sites. Elle est spécialisée à l'origine, dans son doctorat en tout cas, sur les problèmes des mortiers et enduits. Et puis elle est partie vers les stucs, sujet qui a fait l'objet d'une exposition à Poitiers il y a quelques années maintenant, et puis aussi sur des monographies de sites importants, et puis enfin c'est ce sujet qui paraît un peu baroque au premier abord, mais qui trouve, je pense, bien sa place ici, puisque c'est une des choses que peuvent faire les archéologues par rapport à d'autres disciplines. Ils peuvent effectivement travailler avec des gens venant des sciences dures, et là ça a été le cas, puisqu'elle s'est associée avec Jean-Christophe Vallière, qui lui n'est pas dans une faculté de sciences humaines, comme Bénédicte vous le précisera probablement, donc je lui laisse la parole.
Merci. Alors j'utilise quel micro, celui-là ou celui-là? Merci pour la présentation de Jean-Christophe. Je le présente maintenant. D'accord, donc Jean-Christophe va arriver incessamment sous peu. Il nous a autorisé à commencer parce que, comme on a beaucoup de choses à vous raconter, on ne voulait pas vous faire trop attendre. Donc Jean-Christophe est professeur à l'Université de Poitiers, donc à l'Institut Polytechnique Poitevin de recherche en mécanique et énergétique. En fait, son laboratoire d'origine, c'était le LEA, Laboratoire d'études aérodynamiques, qui a été globalisé dans un nouvel institut de plus grande taille. Donc lui travaille essentiellement en acoustique, donc professeur d'acoustique, et il développe un certain nombre de projets sur cette problématique-là. Donc on s'est rencontrés il y a de nombreuses années et de fil en aiguille, en parlant à la fois archéologie et acoustique, on en est venu à développer ce travail, qui est un travail proprement interdisciplinaire dans la mesure où on a vraiment travaillé ensemble. Même si moi-même, toute seule, j'aurais eu du mal aujourd'hui à vous présenter toute la partie acoustique qui va vous présenter, l'ensemble des mesures, l'ensemble des recherches ont été faites de façon collective. Donc je tenais à le signaler. Donc sans plus attendre, on va démarrer. Donc les peaux acoustiques dans les églises médiévales et modernes. On a choisi de vous présenter quelques aspects de l'historiographie, de la filiation et des premières interprétations qu'on a pu dégager. Donc tout d'abord, évidemment, qu'est-ce que c'est que les peaux acoustiques? Donc en fait, il s'agit de poteries qui sont insérées dans la partie haute des murs ou dans les voûtes et qui sont noyées dans la maçonnerie et dont seul le col affleure. Donc je vous ai mis une très jolie photo ici. Vous en avez ici deux exemplaires. On va passer à la suivante. Ce sera beaucoup plus explicite. Donc vous voyez ici une voûte avec deux poteries qui sortent. Donc on a le détail, une photo de détail, on les voit très bien. Généralement, le col n'est pas aussi visible. On ne voit qu'un petit cercle, sachant qu'en général, comme ils sont placés en partie haute, on a parfois du mal à cerner de quoi il s'agit. Donc comment elles se répartissent, ces poteries? On a différents types de schémas. Donc différents types de schémas que je vais vous présenter successivement. Soit donc une répartition en ligne, comme on a ici dans ces deux exemples, à Baume-et-Messieurs et à Briec. Soit des systèmes en triangle, comme on trouve ici à Saint-Chef-en-Dauphiné. Ou alors des systèmes qui entourent la partie haute des baies. Ou bien des systèmes mixtes, un peu plus complexes, sur lesquels on essaiera de revenir, donc à la fois des lignes, des carrés, des triangles, on ne sait plus très bien dans ces cas-là. Donc c'est différentes combinaisons d'agencement. Et les systèmes qu'on appelle dispersés. des systèmes dispersés, donc où l'agencement des peaux ne semble pas répondre à un système, un des systèmes vus précédemment. Donc cet exemple de McVen, où les peaux sont disposées notamment en fonction des stalles qui sont adossées au cœur. Du côté nord, on distingue deux peaux placées de part et d'autre de l'ornement de bois, vous voyez les petites flèches rouges, qui terminent le haut de la stalle. Donc ça, c'est un élément intéressant sur lequel on reviendra plus tard. Ensuite, ces peaux, où sont-ils situés dans l'église? De manière plus générale, sur la base de nombreuses églises inventoriées, les peaux sont le plus souvent regroupées près du cœur de l'église, c'est-à-dire dans l'espace compris entre l'abside, le transept, la croisée et les premières travées de la nef. Quel type de peau on utilise? Qu'est-ce qu'on trouve comme type de poterie? On trouve des formes et des grandeurs variées, issues d'une production qui est généralement locale et à usage domestique. Dans la grande majorité des cas, il ne s'agit pas vraiment d'une fabrication spécifique, mais de l'emploi de récipients disponibles, voire du remploi de certains d'entre eux, après un usage culinaire, par exemple. Quel est leur nombre? Alors, le nombre est quelque chose de très variable, vous allez le voir. On en trouve de 1 à 100, donc c'est vraiment extrêmement varié et variable. Dans quels édifices on les trouve, ces peaux acoustiques? On en trouve principalement dans les églises, surtout en France, mais parfois dans les bâtiments privés, comme les maisons ou les châteaux, ou dans d'autres types de lieux de culte, comme les synagogues ou les mosquées. Alors ici, Jean-Christophe a produit une carte de répartition de ces peaux telles qu'on les connaît aujourd'hui. Donc dans quel pays on en trouve? Évidemment, on en trouve beaucoup en France, mais on la trouve aussi dans de nombreux autres pays d'Europe, notamment l'Allemagne, la Suisse, l'Italie, le Danemark, la Grande-Bretagne, la Belgique, les Pays-Bas, la Russie, la Pologne. Je ne vous fais pas tout l'inventaire, hein, mais c'est pour vous dire qu'il y en a à peu près partout. Plus au sud, on en trouve aussi en Croatie, en Albanie, à Chypre et voire même en Égypte. Alors quand ces peaux ont-ils été disposées dans les édifices et en particulier dans les églises chez nous? Donc ils sont implantés entre le 11e et le 18e siècle. C'est-à-dire qu'on trouve des peaux acoustiques dans les églises depuis le 11e jusqu'à la fin du 17e, début 18e, pour être un peu large. Et ce qui est curieux, c'est qu'ils semblent disparaître au moment où se développent les premiers principes de science acoustique moderne. Ça, c'est un point sur lequel Jean-Christophe reviendra. Pourquoi on dit qu'ils sont acoustiques? Alors, les poteries qui sont insérées dans les maçonneries ont été interprétées de différentes manières. On les a interprétées comme des dispositifs d'allègement des voûtes. C'est le cas, par exemple, de Saint-Vital de Ravenne, où on a effectivement utilisé des poteries, mais des poteries en forme de tubes qui sont les unes dans les autres et qui servent à constituer les voûtes et à les alléger. On les a aussi interprétées comme des drains pour favoriser l'assèchement des murs. Alors, moi, qui travaille plutôt sur les enduits, je dirais que leur rôle paraît quand même assez limité dans la mesure où ces peaux acoustiques sont généralement placées dans la partie haute des murs, voire dans les voûtes. Donc cette hypothèse du drain semble peu convaincante. Sinon, ils ont été interprétés également comme joints de dilatation pour les enduits de surface, comme si les enduits de surface, pour éviter de craqueler, avaient besoin de poterie. Alors, on a des choses aussi beaucoup plus pittoresques. On a pu lire que c'était en fait des nichoirs à oiseaux. Alors, c'est vrai que dans les églises, on peut avoir des colombes, mais ce qui est intéressant, c'est que les pots de terre sont effectivement utilisés également dans les pigeonniers, dans certaines régions. Comme dans le Limousin, on trouve des pigeonniers avec des pots de terre qui sont assez semblables, des pots qu'on trouve parfois utilisés comme pots acoustiques. Mais il est clair que la destination d'usage n'est pas exactement la même. Ensuite, ces poteries peuvent servir de niche ou de cache à trésors. C'est aussi une interprétation. Quand on en a à hauteur d'homme, ça peut être effectivement le cas. Mais bon, même si certains pots noyés dans la maçonnerie peuvent renfermer des pièces de monnaie, quand on en a un certain nombre et qui sont placés à 8 mètres du sol, ça paraît difficile. Donc en fait, qu'est-ce qui nous reste? Il nous reste l'hypothèse acoustique. Donc c'est l'hypothèse qui a été défendue non seulement après l'élimination des autres possibilités dont je viens de vous faire l'inventaire, mais elle est aussi soutenue par des arguments qui ont été rassemblés, depuis le XIXe siècle. Alors, là, je vais passer, vous m'excuserez, je vais enchaîner avec la partie suivante qui me concerne, et je laisserai à Jean-Christophe le soin de vous expliquer ça. Ne vous inquiétez pas, dans la mesure où on a décidé d'alterner nos interventions, il n'y a vraiment aucun souci, vous ne serez pas perdu. S'il pouvait arriver maintenant, ce serait parfait. Mais s'il n'arrive pas tout de suite... Donc, si vous le voulez bien, on va enchaîner directement avec les questions d'historiographie. Donc, évidemment, quand on a commencé à travailler sur ce sujet... On a commencé par lire toute la bibliographie qui concernait les peaux acoustiques. Donc le terme de peau acoustique, lui, est employé en France pour la première fois en 1842. On le trouve dans le bulletin archéologique du Comité historique des arts et des monuments pour décrire, je cite, « des cornets en terre cuite que François Huard a découvert dans les murs de l'église Saint-Blaise d'Arles » que vous avez ici. 20 ans plus tard, alors ça c'est la première mention, elle est assez isolée. Alors, c'est un certain Diderot qui fait cette communication, qui raconte donc la découverte du Huard et qui dit, voilà, on en a trouvé un, il faudrait que nos correspondants des différentes sociétés archéologiques et historiques nous fassent part de leur découverte. Et 20 ans plus tard, il a reçu pratiquement aucun signalement. Donc, je disais 1842... Il faut attendre 20 ans pour que les recherches démarrent, en quelque sorte, avec la publication de 3 articles très importants. Un premier article sur le couvent des Célestins de Metz et de sa chronique qui date du XVe siècle. C'est un article d'un certain Bouteiller. C'est un article très important parce qu'il fait mention du texte le plus ancien que nous connaissons actuellement sur le sujet. Un texte, donc cette fameuse chronique qui date de 1462 et qui parle des peaux acoustiques. Cette chronique fournit également une description, bien que sommaire, du dispositif qui était autrefois visible dans l'église. L'église depuis a été détruite, donc on n'en a pas de trace. Donc je vous ai reproduit ici le texte. Si vous voulez bien, on va prendre plutôt la version traduite. Donc en cette année dont nous parlons, au mois d'août, la veille de l'Assomption de Marie, après que frère Aude le Roi, abbé de ce lieu, fut de retour du chapitre du Graal évoqué ci-dessus, il fit faire ordonner de placer des peaux dans le cœur de l'église, de ce lieu, argant qu'il avait vu en d'autres lieux, dans quelques églises, et pensant que cela améliorerait la qualité du chant et qu'il y résonnerait plus fort. Et ces peaux y furent tous installés en une journée avec l'aide d'autant d'ouvriers que nécessaire. Mais il ne sait pas si l'on y chante mieux qu'autrefois. Et croyez bien que les murs en furent fortement ébranlés et secoués à plusieurs reprises, et beaucoup de gens qui viennent là sont bien étonnés que cela y ait été fait. Et ils disent, quelquefois, qu'il vaudrait mieux à présent qu'il soit dehors, puisqu'il pensait bien que ces peaux avaient été mis là pour faire et donner du plaisir aux fous. Alors c'est un texte extrêmement intéressant pour nous et pour notre sujet. Donc le frère prieur ordonne de placer des peaux dans le cœur de l'église. L'indication portant qu'il avait vu autre part en aucune église montre que l'ajout des vases en cette église a été conditionné par une transmission de témoignages visuels et oraux. Suite, semble-t-il, au voyage du prieur en Italie, à l'occasion de la tenue d'un chapitre. On a ici l'hypothèse d'une tradition orale qui est associée aux peaux acoustiques, liée soit à la pratique des chantiers et aux corporations, soit à la symbolique religieuse, soit à une croyance populaire qui reposerait sur une tradition qui n'a pas été transcrite. L'introduction dans les peaux des maçonneries, comme on le voit dans ce texte, est très rapide, en une seule journée, dit-il. Le frère qui a commandé cette opération ne sait pas si l'on y chante mieux qu'autrefois. Autrement dit, il n'est pas vraiment convaincu par l'efficacité du dispositif acoustique qu'il a prescrit. La mise en place des peaux pouvait être décevante si elle n'était pas accompagnée d'une certaine connaissance technique. Afin d'en choisir la fréquence, on y reviendra plus tard, le nombre nécessaire et la localisation parfaite dans l'édifice. En d'autres termes, ce texte illustre un cas de figure qui a dû se produire à de nombreuses reprises, à savoir la transmission du dispositif de correction acoustique, l'introduction qui est traduite par l'introduction de poterie dans les maçonneries, mais sans le savoir-faire qui l'accompagne. Ainsi, le résultat décevant de la manœuvre nourrit le scepticisme des utilisateurs des lieux, qui, en l'occurrence, incriminent le prieur pour avoir ébranlé et secoué les murs en plaçant un dispositif pour faire et donner du plaisir aux fous, c'est-à-dire tout à fait inutile. On peut lire à travers cette dernière phrase qu'il faut être fou pour croire que l'introduction des poux dans les maçonneries peut avoir un effet réel sur l'audition dans les églises. Suite à ça, la même année, donc c'est pas tout à fait suite, mais c'est en même temps, un gros article sort d'un certain donc Monsieur Diderot qui avait rédigé la première notice de 1862. Donc Diderot publie un article sur un sujet plus général, sur l'acoustique des monuments. Et lui est sceptique quant à la vocation acoustique des poteries insérées dans les maçonneries. Pourquoi ? D'abord parce qu'en 1862, il ne connaît que deux exemples en France, celui de Metz et celui d'Arles, étant entendu que si le système était efficace, il serait plus diffusé et mieux connu. Ensuite, il est influencé par le commentateur de la chronique de Metz, qui déclare que c'était bon pour amuser les fous. Et de conclure, alors je cite, « De là, vraisemblablement, son abandon par les gens sensés du Moyen-Âge ». Donc Diderot pense que ça a été abandonné par les constructeurs du Moyen-Âge parce que ça ne servait à rien. Enfin, il a connaissance d'exemples à l'étranger, notamment en Suède, en Russie, au Danemark, en Italie et en France. Et donc ces exemples qui sont cités et défendus par d'autres savants finissent malgré tout par le convaincre de la vocation acoustique de ces dispositifs. Troisième article essentiel qui paraît la même année, donc de l'abbé Cochet, qui travaille lui plutôt sur la Normandie, et qui établit une liste déjà fournie des églises normandes qui conservent ce type de dispositif. Il est le premier en 1862 à citer un autre texte qui va nous intéresser aussi beaucoup, qui est le passage de l'Apocalypse de Méliton concernant donc ces vases acoustiques. Ce texte, qui est daté de 1665, reste aujourd'hui encore une des rares citations anciennes qui désigne les poteries mises en place dans les maçonneries comme dispositif à vocation acoustique. Alors vous en avez ici la partie qui nous intéresse, de 50 choristes que le public entretient de dans telle maison, quelquefois ils ne seront pas 6 à l'office. Ces chœurs sont accommodés avec des pots dans la voûte et dans les murailles, en sorte que six voix y feront autant de bruit que 40 ailleurs. C'est le portique d'Athènes appelé Heptaphonon, où une voix résonna au centuple, par une forme d'écho. Un moins modéré appellerait cette industrie, une pieuse fraude. Alors cet Apocalypse de Méliton, dont la première édition, donc je vous disais, est sortie en 1662, évidemment c'est une critique. C'est une critique faite par un huguenot des abus de l'état monastique. L'auteur y dénonce les mœurs, les usages, les doctrines et les quêtes des ordres monastiques, bénédictins et dominicains, dans le contexte particulièrement sensible de la Réforme. Méliton dénonce la supercherie que constituent selon lui les pots acoustiques, que les moines installent dans les chœurs pour faire croire aux fidèles, cachés derrière leurs jubés, qu'ils étaient plus nombreux qu'en réalité, bénéficiant ainsi de dons plus importants. La remise en contexte de ce témoignage nous éclaire sur plusieurs points. Tout d'abord, Les peaux acoustiques sont désignées clairement comme des amplificateurs du son produit par les chanteurs. Méliton indique que les peaux sont placées dans la voûte et dans les murs, pour les moines qui sont séparés visuellement des fidèles par le jubé. Enfin, le caractère critique du texte à l'égard de la communauté monastique doit nous alerter sur l'exagération probable de l'auteur, y compris sur l'effet acoustique des peaux. Il considère que le dispositif placé dans les voûtes augmente et amplifie considérablement le son. Il dit que 6 chanteurs puissent produire une sonorité équivalente à 40. Bien que cet avis ait été partagé par quelques ardents défenseurs de ces dispositifs acoustiques au XIXe siècle, une telle amplification ne semble pas réaliste, donc pas trop crédible. Suite à ces 3 articles essentiels, dans lesquels on a trouvé 2 mentions de textes importantes et un certain nombre de cas d'églises citées, en 1886 paraît un gros article signé par Vacher et qui témoigne de l'ampleur prise par le sujet parmi les érudits et les progrès faits en la matière en une 20aine d'années à peine. Vacher recense un nombre plus important d'églises et décrit les peaux acoustiques et leur emplacement dans l'église. Il publie d'intéressants dessins de plusieurs exemples de ces peaux, et il cherche à démontrer aussi que les vases, pour certains sillonnés de cannelures horizontales, et pour d'autres ayant, je cite, « base arrondie, ce qui ne permet pas de les tenir debout », comme c'est le cas du numéro 2, par exemple, ou bien « sans anse », selon lui, ces différents types montrent qu'ils ont été fabriqués pour un usage exclusivement acoustique. Alors, ce point de vue est intéressant puisque, on l'a vu, généralement les peaux qu'on utilise sont des peaux à usage culinaire, souvent hors emploi, mais on a effectivement quelques spécimens qui nous font dire qu'on avait peut-être une production spécifique dans certains cas, comme ici le numéro 2, le numéro 5 également, qui a quand même une forme... à la limite, qui pourrait tenir sur un trépied, mais on comprend le questionnement de Vacher à ce sujet. Une autre question importante est également soulevée dans cet article, celle du rapport entre l'emplacement des peaux dans l'espace de l'Église et le positionnement des célébrants, prêtres et chantres. Il est spécifié par exemple que les peaux acoustiques de pommiers en forêt, l'exemple que je vous présente là en diaporama, sont situés au-dessus des stalles existant en avant du transept. Donc vous voyez ici, donc on a l'église en plan avec la disposition des peaux qu'on a là, et les stalles étaient donc positionnées juste en dessous, le voilà. Bon, je continue. Donc ces peaux étaient situées au-dessus des stalles existants en avant du transept et dans la voûte où était établie la tribune des religieuses dans un autre exemple qui est celui de l'église de Saint-Thomas-la-Garde. À Saint-Chef-en-Dauphiné, un autre exemple que je vous montrerai plus après, les peaux sont situées dans la partie de l'édifice où l'on chantait les offices chaque jour. Donc Vacher est en train de faire une relation intéressante pour nous également, relation entre la disposition, l'emplacement des peaux avec la célébration de la liturgie. Enfin, il cherche à comprendre pourquoi ces vases sont tombés en désuétude, voire dans l'oubli. Pour cela, Vacher rapproche la disparition des peaux acoustiques du mépris de l'architecture gothique et du rejet du Moyen-Âge au XVIIIe siècle, comme, je cite, pour témoigner en quelque sorte que la création du gothique était due à des peuples encore non entièrement civilisé. Je ferme les guillemets. Pendant la première moitié du XXe siècle, les découvertes de ces peaux dans les maçonneries sont de plus en plus nombreuses, et la meilleure connaissance des dispositifs se heurte à la question de la destination d'usage réel de ces poteries placées dans les murs. Le scepticisme initial de Diderot fait des émules parmi les archéologues et parmi les érudits, sur la base des vestiges qui restent muets et peu convaincants, mais surtout des quelques textes anciens qui dénigrent, comme je vous l'ai montré, ces dispositifs en l'absence de documents corollaires qui pourraient en défendre l'efficacité. C'est vrai que les rares textes que l'on a qui parlent des pots acoustiques, c'est pour dire qu'ils ne servent à rien, en gros. Un peu plus tard, le recueil des textes relatifs à l'histoire de l'architecture en France, édité par Victor Mortet en 1911, rassemble de précieuses sources écrites d'époque sur la construction au Moyen-Âge. Un seul texte de ce recueil évoque la présence de poteries placées dans la voûte de l'église collégiale Saint-Donatien de Bruges, qui pourrait éventuellement correspondre à un dispositif acoustique. Il s'agit d'une description datée de 1127 du bourg et du château comtal de Bruges, parmi lesquels l'église Saint-Donatien. Donc voilà cette description. Donc dans la description de la construction de l'église, il est question alors, de Stabat autem ecclesia, beati Donatiani edificata in rotundum et altum, contecta fictilio opere, olis et lateribus cacuminata. Victor Mortet commande ce passage en précisant, donc en note, il n'est pas impossible qu'il s'agisse ici de pots de terre cuite, donc correspondant au terme olae, placés dans l'épaisseur de la construction comme moyen acoustique et agent de répercussion du son. Certains de ces exemples s'appliquent au cœur des églises. Dans la mesure où les dispositifs les plus anciens conservés dans les églises datent des XIe, XIIe siècles, en France en particulier, il est déconcertant de constater que l'on ne trouve aucune mention correspondant dans ce recueil de nombreux textes contemporains relatifs à la construction et à l'architecture. Le commentaire en note de Victor Mortet pour le récit de Galbert sur Saint-Donatien nous garantit au moins qu'il connaissait ce type de dispositif et que s'il en avait rencontré une indication dans les autres textes qu'il a publiés, il en aurait bien sûr fait mention. Or, ce n'est pas le cas. Donc, pour les textes vraiment anciens, 11e, 12e, on n'a vraiment pratiquement rien. On poursuit un peu plus loin ce parcours de l'historiographie avec un article de Marcel Baudouin, qui date de 1938, sur les vases de résonance dans les églises du Bas-Poitou. Rien que le titre, c'est un poème. Cet opuscule rassemble les exemples trouvés dans les églises de la région et principalement en Vendée. Mais il propose surtout une réflexion poussée sur le fonctionnement acoustique des vases en les comparant à des porte-voix. Marcel Baudouin s'inscrit comme fervent défenseur de l'efficience acoustique des poteries placées dans les murs des églises. Il partage cette conviction avec un collègue tourangeau, un certain Jacques Rouget, qui lui envoie pour publication la description des pots acoustiques qui sont conservés à la chapelle du Liget, près Chemillé, en Indre-et-Loire. La description de Rouget est sans appel. Je cite « Ces vases sont des résonateurs puissants et je me fais entendre fortement dès que je parle devant ces acoustiques. Ma voix est alors trois fois plus forte. » Fermez les guillemets. Ce constat enthousiaste est troublant. Dans la mesure où les poteries sont placées dans les parties hautes des murs, ils devaient donc se placer en face et non devant ces vases, et que la couverture de l'édifice a disparu, c'est-à-dire que le comportement du son est par conséquent entièrement modifié. Mais le plus savoureux quand même du propos de Rouget est une raillerie caustique à l'encontre des, je cite, « des indigènes de Loche qui croient que ces vases ont été mis là pour faire pondre les pigeons. Quoique le Saint-Esprit soit très colombophile, on ne peut pas retenir cette hypothèse pour une église, n'est-il pas vrai ? » Fermez les guillemets. Baudouin propose une réflexion intéressante sur la localisation des pots en rapport avec l'usage liturgique de l'édifice. Il observe que les pots sont toujours placés entre la chair et le cœur, c'est-à-dire où les officiants et les prêtres parlaient au peuple assemblé dans le vaisseau religieux. Il souligne que leur emplacement est rituel et voulu par la liturgie. Une église fait par ailleurs l'objet d'une petite notice très rapide, citée par Forsyth en 1953. Il s'agit des pots placés dans les murs et dans la voûte de Saint-Martin d'Angers. Ils sont décrits comme, je cite, « destinés à améliorer l'acoustique ». Mais l'auteur, donc Forsythe, ajoute qu'ils étaient probablement inefficaces. Comme ça, c'est clair. Les recherches les plus complètes sur ce sujet pour la seconde moitié du XXe siècle, sont probablement celles de l'abbé Floriot, qui soutient une thèse sur le sujet des pots acoustiques en 1964. Son travail est tout à fait novateur, puisqu'il propose une approche scientifique des poteries par l'acoustique, tout en réalisant une synthèse exhaustive des connaissances sur la base de la bibliographie disponible à son époque. Suite alors les tests en laboratoire qui mesurent l'incidence acoustique des vases, bouchés et débouchés, avant d'exporter le protocole de mesure in situ dans une église. Ces mesures réalisées dans plusieurs édifices sont alors comparées et interprétées à partir de la théorie acoustique qui les accompagne. L'abbé Floriot souligne à juste titre qu'il est toujours question d'amplification du son, tant dans les mentions anciennes que dans les articles du XIXe et XXe siècle. Alors que l'effet produit par les vases acoustiques, d'après les mesures qu'il a réalisées en laboratoire et in situ, exclut complètement l'amplification et s'apparente davantage à une absorption et à une régularisation de l'onde sonore. Les travaux réalisés par Floriot conduisent l'auteur à conclure par l'affirmative à la question de l'efficacité des pots acoustiques dans les églises médiévales, en particulier pour les poteries placées dans les voûtes, dont la suppression rend certains édifices impropres à une audition fonctionnelle. En 1976, Yves-Pascal Castel publie un opuscule consacré aux églises du Finistère, dont la concentration des dispositifs acoustiques est surprenante, en particulier pour les églises des XIVe et au XVIIe siècle. L'auteur présente en détail les poteries acoustiques conservées dans ces églises avec leur datation. Il distingue les dispositifs contemporains de la construction de ceux qui ont été ajoutés par la suite et il met en relation l'implantation des vases avec l'usage liturgique de l'espace, comme l'a fait précédemment Baudouin. Castel mentionne également un texte de 1666 émanant des comptes de fabrique de l'église Saint-Idunette de Trégorez dans le Finistère. Voilà cette mention. Donc la fabrique commande à Hervé Le Camp d'Erguet, donc c'est un village voisin, 10 pots à mettre dans les murs de l'église pour faire écho. Et elle paye la somme de 10 livres pour ce travail. Yves-Pascal Castel, qui rapporte ce fait, souligne fort justement que l'église de Erguet-Armel, commune dont provient l'artisan qui réalise l'opération, compte également 17 pots acoustiques. Dans cette mention de Trégorez, la destination d'usage des poteries placées dans les murs ne fait aucun doute. Il s'agit bien d'un dispositif spécifique, acoustique, destiné à faire résonner la voix ou à faire écho. Sans préjuger de l'acception précise des termes eux-mêmes, l'objectif des poteries est de modifier et d'améliorer la perception sonore de l'église. 3 ans plus tard, Jean-Marc Fontaine réalise une nouvelle étude qui s'inscrit dans la continuité des travaux de Floriot, avec donc une approche acoustique basée sur les mesures des pots et des dispositifs in situ dans les églises. Les publications postérieures aux travaux de Jean-Marc Fontaine sont peu nombreuses. Signalons, en tout cas pour la France, signalons toutefois une mention de 1997 concernant la chartreuse du Val de Bénédiction à Villeneuve-les-Avignon. Il s'agit d'un prix fait daté de 1603, qui correspond à la mise en place de 3 pots dans les murs nord de l'église, dont l'un d'eux est actuellement encore visible en place. Cette mention est particulièrement intéressante dans la mesure où l'on conserve les vestiges du dispositif commandé au plâtrier au tout début du XVIIe siècle. Voici l'extrait qui nous intéresse. Il s'agit donc... c'est pas celui-là. Zut, je me suis trompée. Ah, d'accord, le voilà. Donc, puis à la fenêtre qui est sans vitre du côté droit du grand autel, il fera une petite muraille de gypse d'une coudée et d'autres, et il remplira des pots de terre et de gypse, qui sera nécessaire d'y employer aux deux piliers. Alors, normalement, j'ai la traduction française, en français courant et je ne l'ai pas, donc on va faire sans. Donc, la description que l'on a, c'est la commande qui est faite. Mais dans ce passage-là, il n'est pas précisé que ces pots ont une destination acoustique. En réalité, quand j'ai lu l'article la première fois, je me suis dit, c'est super, on a une mention et on a l'exemple archéologique qui va avec, ce qui est assez rare. Et en fait, en relisant précisément, je me suis rendu compte qu'il s'agissait peut-être de pots acoustiques, mais que l'interprétation avait été donnée par celui qui avait écrit l'article et que ce n'était pas contenu dans le passage lui-même. Donc il s'agit de placer trois grandes gerles de terre cuite sous chacune des trois fenêtres du mur nord, comme on l'a vu. L'une de ces gerles donc, est actuellement en place, tandis que les deux autres conservent uniquement un trou dans la maçonnerie. Donc l'interprétation acoustique de ce dispositif est donnée dans l'article, mais sans reposer sur le texte lui-même. Dernier article dont je vais vous parler, c'est celui qui est paru en 2002, écrit par Yves Hennigfeld et Maxime Verlet, au titre accrocheur de « Sourd comme un pot acoustique ». Et cet article est consacré aux découvertes archéologiques de poteries faites dans les murs de deux maisons médiévales à Strasbourg. Cette contribution propose d'étudier le cas de poterie architecturale dont la destination d'usage, sans qu'elle soit attestée, peut répondre à différentes hypothèses autres qu'acoustiques. Les auteurs proposent plusieurs hypothèses, techniques, foncières, utilitaires, esthétiques, voire symboliques, en alternative à l'hypothèse acoustique, et ils soulignent à juste titre la question récurrente de l'interprétation des poteries insérées dans les murs en l'absence de sources écrites concordantes. Les archéologues soulignent la nécessité de replacer les poteries architecturales dans le contexte spécifique de chaque site, en croisant toutes les informations disponibles, l'archéologie du bâti, la céramologie, l'étude historique et topographique, les datations relatives et absolues et les témoignages textuels. Alors, je fais juste une petite incursion chez nos voisins limousins. Donc, en 2004, on est dans le bulletin de la Société archéologique et historique du Limousin, la mention de pots acoustiques dans l'ancien prieuré de filles de Villevalet, en Haute-Vienne. Donc ça a été publié. Ce qui est intéressant surtout pour cet article, c'est qu'il cite une mention qui a été rarement, une mention de texte qui a été rarement reprise dans les publications, correspondant aux extraits des contes du chapitre de Saint-Denis de Vergy en Côte d'Or et qui est daté de 1616. Dans ces contes, on trouve la mention donc suivante, « Payez 24 sols au tupinier de Belon pour 3 douzaines de petits pots pour mettre dans la muraille du cœur, propre à faire résonner la voix. » Je n'ai pas fait ici, je ne m'apesantis pas sur cette mention, donc elle montre simplement que c'est bien à vocation acoustique que ces pots sont placés dans les murs. Donc je n'ai pas fait ici état de la bibliographie étrangère, ce serait beaucoup trop long. Je tiens à citer quand même qu'une thèse a été faite sur les pots acoustiques en Suisse par Victor Desarnaud. Et je me permets donc de marcher un moment sur ces terres pour récupérer donc une dernière mention qui nous paraît importante. Donc, Desarnaud rapporte une commande de travaux réalisée dans un édifice situé au bord du lac Léman. Cette mention datait de 1587 au sujet du temple protestant où l'on monta des ponts, des échafaudages, dans le temple de Lutry, afin que le maçon Jacques Bodmer puisse faire des pertuis et voltes du temple, afin que la parole de Dieu qui est annoncée soit tant facilement entendue. Ce texte témoigne également de l'intention acoustique de la mise en place des pots dans la voûte du temple, et elle atteste que ces pots étaient mis en place non pas seulement pour le chant, comme on le voit dans les églises monastiques de culte catholique, mais aussi pour la parole, le prêche, dont l'usage est central dans la liturgie protestante. Dans ce passage, on ne semble pas mettre en avant l'amplification du son comme les mentions précédentes de Metz, Trégoret et Vergy, mais son intelligibilité, donc la compréhension du message sonore. Alors, Jean-Christophe est arrivé. Merci d'avoir réussi à nous rejoindre. Donc, comment procède-t-on ?
Mais je reprends peut-être là où j'aurais...
Tu vas, voilà, je pense que... Donc, je passe la parole à Jean-Christophe. Viens te mettre à côté de moi, comme ça on va
d'accord.
faire.
Alors, moi, je fais partie des sciences debout. J'aime bien être debout, mais bon. Mais voilà, je me... voilà.
Je vais juste noter où on s'est arrêté.
Donc, je vous prie de bien vouloir m'excuser. C'est la voiture qui a décidé pour moi. Et il faut que je mette des lunettes. Voilà. Alors, on revient au début.
Donc, tu attaques ici.
Oui, oui, c'est ça, c'est ça. C'est ça. Tout début. Donc, en fait, nous avions prévu d'alterner, donc on va prendre l'alternance à partir de maintenant. Et ma première intervention, en fait, voilà, c'était juste après, en fait. Ça, c'est toi, et ça, c'est moi. Voilà. Ma première intervention, en fait, visait à faire des rappels ou des appels, je ne sais pas, d'acoustique des espaces clos, donc des salles, des églises, ou de tout espace clos. Et juste pour savoir de quoi on parle exactement, parce qu'on verra plus tard dans l'histoire, il y a un certain nombre de concepts qui se sont élaborés progressivement. Mais nous allons parler de ce que l'on connaît maintenant, pour voir un petit peu la cible, la différence, on va dire, ou l'écart qu'il y a entre, disons, toute la connaissance, les connaissances antiques, médiévales et modernes, contemporaines à la pose des pots, et celles d'aujourd'hui. Donc, dans un espace clos... D'une façon générale, il y a une première interprétation qui est une interprétation que je qualifierais de temporelle, c'est-à-dire si vous avez un orateur ici, donc moi par exemple pour vous, ben vous allez recevoir, alors là il y a la sono, mais sans sono, un son direct et puis un son avec des réflexions. Et puis le son va se mélanger, il faut penser qu'il se propage à la vitesse de 340 mètres par seconde, donc c'est extrêmement rapide. Quand l'espace est petit, en fait, très très rapidement, toutes les réflexions sur les parois se mélangent pour donner après un son diffus. Alors, vous voyez ici ce qu'on appelle le réflectogramme. Vous voyez que vous avez ici le son direct qui vous parvient directement. Les premières réflexions, ces premières réflexions en acoustique des salles actuelles, c'est très important pour localiser, par exemple, des instruments d'orchestre. Donc, on porte une grande attention à la qualité de ces premières réflexions. Et puis après, ce que l'on appelle la réverbération, c'est-à-dire ce champ diffus. Et la réverbération, on l'estimera par un temps, le temps de décroissance, en fait, de cette réverbération, une décroissance de 60 décibels. Alors, selon les salles, si vous êtes dans une petite salle, vous allez très rapidement, finalement, les premières réflexions sont très, très courtes. Si vous êtes dans une très grande salle, évidemment, un son beaucoup plus long. Mais quand vous allez dans une très grande salle, vous allez avoir un son très réverbérant. Plus la salle est grande, en fait, et plus le message sonore, souvent, est compliqué à percevoir. On sait tous, par exemple, pour avoir entendu des concerts dans des grandes églises, dans des cathédrales, que parfois, ce n'est pas la meilleure façon d'entendre la finesse, par exemple, d'une interprétation qui serait très rythmé, par exemple. Donc c'est complexe, et ça a toujours posé des questions dans l'histoire. Alors ça, c'est une version, une approche un peu temporelle, mais il y a aussi une approche fréquentielle, c'est-à-dire que lorsque vous allez être dans un espace, quand vous êtes en très basse fréquence, ce qui va se passer, c'est que c'est la salle qui va prendre... le dessus, en quelque sorte, c'est-à-dire qu'il va y avoir ce qu'on appelle des modes, des fréquences particulières qui vont être renforcées. Et puis, en haute fréquence, la plupart des sons vont se propager plus facilement, mais vont aussi s'atténuer beaucoup plus. Cette réverbération, qui a un temps important, va en fait aussi dépendre de la fréquence. En très basse fréquence, en général, il va être plutôt important. Alors là, c'est des exemples. J'ai trouvé ça. Vous voyez la cathédrale de Poitiers. Alors c'est pour ça que je l'ai mis ici. Et vous avez Notre-Dame de Paris. Vous voyez Notre-Dame de Chartres. Bon, c'est que des beaux édifices. Et vous voyez que vous avez ici, en gros, à peu près la même courbe. C'est-à-dire que vous avez en fait un temps de réverbération qui est assez élevé dans les basses fréquences. Hein, vous voyez 125 Hz, 150 Hz, c'est les fréquences de la voix. à peu près, enfin, du fondamental. Et puis, en haute fréquence, au contraire, un temps de réverbération beaucoup plus court. Hein. Ça veut dire que les hautes fréquences s'atténuent beaucoup plus vite que les basses fréquences. Voilà. Alors ça, c'est quelque chose qu'il faut savoir. Alors maintenant, une salle est définie par ses dimensions géométriques, évidemment, par sa taille, par ses formes aussi, j'en ai pas parlé, mais aussi la qualité d'une salle va tenir aussi au revêtement que vous allez avoir autour de vous. Il y a deux types de revêtements. Soit on a des matériaux qu'on va appeler poreux, par exemple, bah, comme ces faux plafonds, ça c'est une salle de conférence, donc dans une salle de conférence, on va atténuer un petit peu le son ici, sinon si c'était trop réverbérant, vous auriez du mal à comprendre ce que je dis. Donc on va mettre des matériaux, en fait l'air, l'onde qui va rentrer dans le matériau, va se dissiper par frottement. Alors par exemple dans une église, ça sera par exemple, un enduit qui est assez poreux, ça va être des tapisseries, des rideaux, des moquettes, etc. Et puis vous avez un deuxième principe qui va être plutôt un principe que je qualifie de masse-ressort. Vous voyez un petit ressort et puis une masse ici, et puis un petit amortissement. Quand l'onde arrive, en fait, elle fait vibrer ce petit système, et puis finalement l'énergie est en partie absorbée. Et ça, si par exemple vous avez un panneau suspendu, et bien, le panneau suspendu va jouer ce rôle-là, ou un plafond en bois, par exemple, va aussi avoir ce rôle-là, ou, évidemment, c'est ce qui nous intéresse ici, un résonateur, une poterie acoustique, fonctionne de la même façon. L'onde qui arrive sur cette poterie, finalement, va exciter l'air du pot, qui va se comprimer, qui va présenter une certaine résistance, et donc va à la fois, et donc c'est le transparent suivant. Voilà. Ah, il y avait des petites choses qui ont disparu avec les couleurs, qu'on ne voit pas très très bien. Mais je pense, il y avait des petites choses qui étaient notées ici. Non, je ne sais pas, il y avait des couleurs, et puis avec l'inversion des couleurs, je ne sais pas ce qui s'est passé, ce n'est pas grave. Donc on imagine, ici je vais le dire, donc on imagine c'est une poterie, très très simple, hein, vous voyez, c'est plus facile à faire. Vous avez ici une onde sonore qui arrive sur cette poterie, d'accord, sur ce mur en fait. Une partie de l'onde sonore, vous voyez, j'ai mis des traits qui ne sont pas équidistants, et ça c'est important, j'en parlais plus tard, quand j'aborderai un petit peu l'histoire de l'acoustique. Donc l'air en fait se comprime ici, donc joue l'effet d'un ressort, et puis ensuite la petite masse d'air ici va jouer l'effet de ce qu'on appelle un piston, comme un petit haut-parleur, et ce petit haut-parleur rediffuse le son dans toutes les directions, et d'autre part donc va créer une petite amplification autour, mais globalement une absorption un peu du son, alors très très légère, un petit peu plus loin. D'accord. Donc vous avez, voilà, par exemple, j'ai schématisé ici ce qui va se passer. Vous voyez que la poterie, j'ai toujours la même. Vous voyez que quand on n'a pas, a priori, quand on n'a pas de vase, bon, vous avez, donc on suppose qu'on a un mur ici. Donc vous allez avoir dans la salle une forme d'onde qui va, alors c'est un peu schématique, hein, j'ai fait ça comme ça avec la souris, mais une forme d'onde qui va être un petit peu comme ça. Et puis quand vous allez avoir le vase, vous voyez que le son va être beaucoup plus fort juste aux alentours du vase, et puis après un petit peu atténué plus loin, très très légèrement. Alors on a fait des simulations numériques pour vous montrer ici. Donc ça c'est la simulation numérique de la diffusion. Vous imaginez, il y a un vase ici, bon, les échelles ici c'est 10 mètres, et puis vous avez un vase ici, et ce vase, c'est juste la diffusion du vase. Donc vous voyez que le champ acoustique est très faible ici, mais autour, vous avez des cercles, en fait c'est des sphères ou des demi-sphères, de rémission du son. Maintenant, quand on ajoute le son avec la diffusion liée au pot, donc vous avez une onde sonore qui arrive, ici vous n'avez pas de vase, ça revient. Ici, vous avez l'onde qui arrive, alors j'ai mis, pour qu'on voit un peu plus l'effet, 1, 2, 3, 4, 5 vases. Alors ça, c'est très fréquent, ce n'est pas une vue de l'esprit, puisque Bénédicte l'a montré, que souvent, finalement, les vases avaient des dispositions, pouvaient être alignées, etc. Et donc, vous voyez ce qui se passe par rapport à ce schéma-là. Vous voyez qu'une légère amplification à proximité, en fait, des vases. Et puis, un petit peu plus loin, vous avez, voyez, une légère atténuation. Un petit peu plus loin, vous voyez, on est dans les zones bleues. D'accord ? Plus c'est élevé, on est en rouge. Plus quand c'est plus faible, on est plutôt dans les couleurs froides. Voilà. J'ai pas suivi mes notes, comme d'habitude. C'est pas grave. Donc ça, c'était le petit rappel d'acoustique. Alors, je ne sais pas ce que j'ai raté. J'ai raté Vitruve, non?
Non, pas,
non pas encore Vitruve, alors. Là, c'est...
En fait, on s'est arrêté...
On va arriver sur Vitruve, en fait.
On arrive sur Vitruve,
voilà. La transition, voilà. Et ben voilà. On est sur Vitruve, donc on reprend le fil de,
Tu reprends directement.
Je reprends. Voilà. Donc là, on est dans... Ce que je viens de dire, c'est un résumé assez succinct, d'accord, de l'acoustique des salles, et puis de l'effet éventuel d'une poterie. Donc, dans une salle, en fait, là, j'ai fait une simulation simplement d'une poterie qui serait insérée dans un mur. Alors... Oui, je vais lire ça, parce que ça, c'est pas moi qui l'ai écrit. Donc l'origine historique et géographique des pots acoustiques est une question qui mobilisa les scientifiques dès le 19e siècle dans la mesure où les mentions textuelles étaient rares et muettes sur ce point comme on vient de le voir. Donc la grande question c'est l'affiliation en fait entre, on va en parler un petit peu en détail, entre ce que Vitruve appela en fait des échéas, les échéas antiques, et les pots acoustiques médiévaux. Et ça, c'est une question qui, en fait, je pense que tu l'as évoqué tout à l'heure. Non, pas du tout, pas du tout, d'accord, dans les textes. Donc, et la question, c'est, il faut ce texte de Vitruve, en fait, nous sert à tout le monde de référence, et on s'est quand même intéressé à le relire pour voir exactement si on pouvait vraiment vraisemblablement dire qu'il y avait une filiation entre ce texte et puis ce qui s'est fait par la suite. Alors, en fait, le texte de Vitruve, il peut se séparer en trois parties. Il y a la première partie, alors d'abord, il faut que je dise ce que c'est comme texte. Tout le monde ne connaît peut-être pas Vitruve, mais il a écrit, bon, les médiévistes et les gens spécialisés d'antiquité connaissent. Donc, il a fait un ouvrage qui s'appelle De Architectura, qui est Vitruve, un architecte romain du 1er siècle avant Jésus-Christ. Je parle sous ton contrôle. Et dans ce texte, il y a beaucoup de considérations sur l'architecture, de façon générale, très intéressant. Et il y a aussi beaucoup de considérations sur l'acoustique. Et pour nous, c'est une source importante. Et ça a influencé après beaucoup les architectes par la suite. Et donc, il y a dans le livre 5, un chapitre 5, qui s'appelle, selon les traductions, « Des vases des théâtres » ou dans la dernière traduction de Catherine Saliou, « Des vases de résonance », ce qui est intéressant. Puisque là, cette fois-ci, on parle de l'effet et non pas du lieu dans lequel on les trouve. Et donc, selon Vitruve, donc dans ce texte-là, il y a trois parties. Et la première partie, en fait, fait une description physique. La seconde partie, en fait, explique comment cela fonctionne. Et lui-même, en troisième partie, fait une filiation, un rapport entre ce qu'il voit à son époque. Et dans la première partie, en fait... Vitruve, alors vous avez ici, je vais dire ce qu'il y a là, mais il faut faire attention, ces trois illustrations sont des illustrations en fait tardives à partir du texte de Vitruve. Vous avez ici, dans la traduction de Claude Perrault, donc le fameux Ikea, ici. Là, c'est Kircher, donc qui représente les choses un peu différemment, et une reconstitution plus... récente de l'Ablé Florio. Je vais m'appuyer sur cette représentation puisque je pense qu'elle colle le plus au texte. Donc, que dit Vitruve? Il dit finalement que dans les théâtres grecs anciens, donc 4 siècles avant, il dit finalement sous les gradins, il y avait, donc les Grecs avaient aménagé des niches à peu près qui faisaient de mémoire, enfin à peu près cette taille-là, on va dire. Environ, et à l'intérieur de ces niches, il y avait des vases qu'il appelle vasa aerea, d'accord, donc des vases d'airain. Et ces vases d'airain, en fait, il interprète ça un petit peu comme des cloches, c'est-à-dire qu'il dit, grâce à ce système, la voix se diffusant en cercle à partir de la scène, comme à partir d'un centre, et touchant et frappant les parois internes de chaque vase, suscitera un effet plus éclatant par la rencontre, grâce à la consonance de sons en accord avec elle. Donc, pour nous, pour les acousticiens, ça ressemble plutôt à ce qu'on appelle un système vibro-acoustique. C'est-à-dire je chante devant quelque chose qui va se mettre à résonner. Donc voilà la description de Vitruve, du système de Vitruve, enfin qu'on appelle système de Vitruve, mais en fait il se met en observateur en réalité de choses plus anciennes. Alors la deuxième partie, alors je rentrerai pas trop dans le détail de cette partie parce que elle est assez poussée. C'est en fait il explique, donc ça c'est une reconstitution ici, il explique comment ces échéas, ces fameux échéas, sont dispersés en fait, sont disposés dans le théâtre, et il est à partir de règles en fait, de règles de l'harmonie en réalité, d'accord. Donc et ça c'est la deuxième partie, il s'appuie sur des principes musicaux d'Aristoxène. Donc ça c'est et la troisième partie de son texte, et c'est celle qui nous intéresse plus particulièrement. Alors nous sommes pas faut le dire tout de suite, nous ne sommes pas intéressés aux enfin tout ce qui concerne l'Antiquité, et il y a des gens qui s'intéressent vraiment à tout ça de très près. Donc nous, on s'est quand même resté sur notre sujet d'étude, qui est le problème de la filiation avec les poteries médiévales. Et c'est pour ça que ce texte nous intéresse beaucoup à la fin. En fait, si vous regardez bien, je ne vais pas vous le dire en latin, parce que c'est un peu oublié la façon de prononcer, mais quand même, je vais vous dire la traduction de Catherine Saliou. Nombreux également sont les architectes ingénieux qui ont construit des théâtres dans les villes sans grande importance, et qui, en choisissant, en raison du manque de ressources, des jarres en céramique qui résonnaient comme je l'ai expliqué, et en les disposant selon le système que je viens d'exposer, ont obtenu des effets très avantageux. C'est la dernière phrase de ce texte. Ce qui est très intéressant par rapport au latin, c'est que l'on voit ici qu'il utilise le terme « fictilibus » ou « bus dolis », qui est très très différent de premier terme. C'est-à-dire que, alors que dans beaucoup de traductions, et ça j'avoue qu'en tant qu'acousticien, je n'imaginais pas un jour que j'aurais à refaire du latin, mais comme quoi, c'est quand on regarde toutes les traductions de Vitruve, et probablement ça a dû influencer ce que Bénédicte va dire par la suite, je crois, si tu reviens, etc. Exactement, c'est que dans les traductions, on s'aperçoit que, finalement, ce terme-là, qui est très différent, est souvent traduit aussi par vase, de la même façon. Or, on voit bien qu'il a une vision, quand même, il distingue bien les vases grecs de ceux qu'il voit à son époque, qui sont en fait des vases bah, comme ceux qu'on a vus, finalement. C'est traduit ici en céramique, dans des traductions anglaises, on dit en argile. En fait, ce sont des poteries. Donc, ça veut dire quelque part, nous, ce texte-là nous intéresse par le fait que finalement, à son époque, déjà, des poteries devaient exister dans les théâtres. La filiation, finalement, c'est lui qui l'a fait. Et beaucoup de gens qui s'intéressent à l'Antiquité recherchent des vases comme il les a décrits, mais finalement, on trouve plus de poteries que de vases anciens. Alors, qu'en pensent les auteurs Ah oui, alors, je voulais... c'est l'analyse qu'en pensent certains auteurs. Déjà Mersenne, qui est le premier acousticien français de l'ère moderne, on va dire, qui a fondé l'acoustique, en quelque sorte. Bon, ils sont plusieurs à cette époque-là. Mais il était déjà très dubitatif. Il dit qu'il est difficile qu'ils, les sons des vases, soient assez forts pour faire entendre leur consonance aux auditeurs lorsqu'ils sont frappés des seules voix. Donc il a un petit peu de doute quand même. Alors il ne parle pas de la fin du texte de Vitruve, bien sûr, il parle des vases grecs, et il dit bon bah finalement ça m'étonnerait que quand on parle on arrive à les exciter. Donc, Florio plus récemment, il dit ce système ne pouvait qu'engendrer des résonances fâcheuses. Effectivement, on peut être très très surpris dans la description du texte de Vitruve. Vous imaginez, vous êtes sur les gradins et il y a un vase qui est accordé sur une note. Donc ça veut dire que vous, alors à condition que ça marche, bien sûr, que vous auriez à côté de vous quelque chose qui ferait en permanence. C'est pas sûr que ça soit vraiment ce qui a été recherché. Donc il y a beaucoup de questions autour de ce texte. Et Liénard est plus ouvert. Il dit l'intuition et les connaissances empiriques des Grecs ont résolu pratiquement le problème. Donc alors justement, c'est intéressant parce qu'il y avait une conférence à Patras. Au mois de septembre, et il y a des Grecs justement qui se sont dit qu'ont repris le texte de Vitruve vraiment littéralement. Ils ont construit, voyez, alors c'est différent de la représentation du bureau, ils ont vraiment fait quelque chose qui ressemble à un vase, donc avec un col plus étroit, et ils se sont débrouillés pour que la vibration de la structure métallique soit en accord avec la vibration du volume interne. Et c'est assez rigolo, effectivement, quand on tape dessus, c'est très résonant. Et voilà, c'est des recherches d'archéologie, comme on appelle ça, un peu, où on reconstruit les choses. Alors maintenant, on ne sait pas si ça a vraiment existé, mais c'est une sorte d'extrapolation. Donc en conclusion, ce que l'on peut dire, c'est que les écarts qui sont décrits par Vitruve possèdent en fait un fonctionnement qui est assez éloigné, en tous les cas ceux des Grecs, de ceux que nous, on peut observer dans nos églises aujourd'hui. Donc la filiation, en fait, est établie par Vitruve. Mais ce qui nous intéresse bien, c'est la fin du texte qui est souvent passée sous silence, finalement, nos fameux architectes, là. Et donc, y a aussi, alors, sur la partie centrale du texte d'explication, il y a une dimension symbolique sur laquelle je ne m'attendrai pas. Et on le verra par la suite. Vitruve a, par contre, ça, ce qui est clair, et ça, ce qu'on le revoit vraiment, c'est que ce texte-là, quel qu'en soit, finalement, je ne vais pas dire l'intérêt, parce que de toute façon, il est intéressant, mais la pertinence en termes d'analyse des théâtres grecs, en tous les cas, il a influencé par la suite bon nombre de bâtisseurs. Voilà. Il nous reste 10 minutes.
Moi, je suis
désaccord,
on a déjà fini normalement.
Ah oui, d'accord. Oh là 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 là. D'accord.
Je pense qu'il vaudrait mieux synthétiser les résultats qu'on a obtenus des mesures.
D'accord, d'accord. Bah dis donc, ça va vite. Hein. Ça veut dire que moi, je suis arrivé à la moitié du temps.
À deux, ça va vite.
Oui, c'est ça. Ouais. Non, pas... On avait prévu 3 heures de conférence, quoi, si j'ai bien compris. Oui, voilà, c'est ça.
Non, ça on passe, on va directement au résultat.
Oui, vas-y, passe. Attends, je vais juste un petit peu expliquer. Arrive à la perche, par exemple. Voilà, ici. Voilà. Donc... Donc on verra, bon, pour les questions, on va essayer d'aller vite. Donc, sur le plan des études acoustiques, il y a eu deux approches. Et la première approche, qui est une approche assez naturelle, qui a été en fait de se dire, bah, si on débouchait les vases, qu'est-ce que ça donne? Je pense que ça, c'est la chose intuitive. C'est ce qu'a fait Fleuriot, c'est ce qu'a fait Fontaine. Alors Fleuriot l'a fait en reconstitution, ce qui a été fait aussi par des Grecs récemment. Le résultat le plus pertinent, on peut dire, qui a été obtenu, c'est ce que disait tout à l'heure Bénédicte, c'est-à-dire qu'en fait, le fait d'avoir des vases, dans certains cas, ils montrent finalement, à condition qu'il y ait beaucoup de vases, ils ont montré qu'il y avait une petite baisse de la réverbération dans l'édifice. Donc ça a été... Alors cette approche-là est très difficile parce que vous êtes très dépendant de l'édifice dans lequel vous êtes. Est-ce que les vases sont cassés, sont pas cassés, etc. Donc, et c'est très difficile de faire des statistiques. À Poitiers, le travail qu'on fait depuis maintenant presque une dizaine d'années a été plutôt basé, un travail en accord entre les acousticiens et les archéologues, qui a été plutôt basé sur le fait de rechercher en fait l'intention. C'est-à-dire, ou en tous les cas, est-ce que par des mesures, un nombre important de mesures qu'on pourrait analyser statistiquement, est-ce qu'on peut montrer qu'il y a des sortes de règles ou des normes d'élaboration ou de la pose des vases? Et donc, pour ça, on s'est dit, on ne va pas chercher tout de suite à voir si ça marche, ce n'est pas notre problème, mais on va recueillir de nombreuses données et essayer de les confronter aux théories de l'acoustique. Et actuel. Ouais. Donc, ce qu'on a fait, bah, bon, je vous passe un petit peu des détails, mais vous voyez, on a en fait mesuré des vases. On avait, c'est pas dans ce transparent ici, mais on a 220 églises répertoriées en France. On en a visité à peu près une cinquantaine. Dans les 50, il y en a plein où les vases sont cassés, où ils sont inaccessibles, où il y en a plus, etc. Et en fait, on a en gros sélectionné. Enfin, on a réussi à mesurer 20 et 25 églises. Et puis, on a mesuré en tout, en fait, à peu près 600 poteries. Et donc, on mesure de la façon suivante. Vous voyez, avec une perche genre canne à pêche, d'accord, dans laquelle on a enlevé le bout, on a mis un petit trépied. Puis là-haut, vous voyez, vous avez un micro. Et puis, le micro affleure le pot et on mesure la fréquence de résonance. En même temps, on doit valider. Typiquement, c'est un spectre. Vous avez ici des fréquences, ici l'amplitude. La fréquence de résonance, elle est là. C'est très souvent le cas, on va le voir. Et puis ici, vous avez ce qu'on appelle les partiels. Quand on a une forme comme ça, avec notre œil, on sait que le pot est en état. très rapidement, maintenant, on arrive à savoir si le pot est en état. Mais aussi, on peut mettre une petite caméra à la place pour regarder l'intérieur. Alors, ça, c'est le principe. Je passe un peu ici, mais vous voyez qu'on a surtout mesuré des églises dans l'ouest de la France. Et puis, nous recueillons pas seulement des données acoustiques, mais aussi tout un tas de dimensions qui vont être importantes pour l'analyse acoustique, notamment le volume de l'église. On a vu que ça jouait un rôle important tout à l'heure. La hauteur, le nombre de pots, leur localisation. Et puis, on prend aussi des informations sur les églises, les dimensions, ouais, je viens de le dire, et le type des voûtes, les revêtements, et puis aussi leur destination. Est-ce que c'est des églises plutôt paroissiales, monastiques, etc. Et donc, voilà, boum, un grand tableau. Donc, maintenant, vous devez le connaître par cœur. J'ai classé les églises, voilà, toutes les églises qui ont été mesurées. C'est classé par croissance. Alors, premier chiffre important, hop, on a une moyenne ici, 25 pots par église. Alors ça, qu'on a, enfin, c'est quelque chose qui est complètement inespéré. Florio, en 64, il n'a pas mesuré les mêmes édifices que nous, il trouve aussi cette mesure-là. Il trouve aussi une moyenne de 25 pots par église. Bon, alors ça, c'est un peu le miracle, on ne sait pas comment on a fait. Et puis, finalement, on a rempli tout ce tableau-là, on a mesuré... On a estimé, on a constaté un certain nombre de vases, et on estime. Alors comment on estime des vases? Ben là, on fait confiance aux archéologues. Ils disent, oh, il y en a là et là, il devrait y en avoir là. On regarde les enduits, etc. Donc ça, c'est le chiffre vu, ça, c'est le chiffre estimé. Et puis, après, un certain nombre de mesures, et puis on a des indications, puis on met ça dans des tableurs. Alors je passe pour aller un petit peu vite. Alors voilà les résultats rapidement. La première chose qu'on peut remarquer dans ce premier diagramme, vous avez ici, donc c'est, que je ne dise pas de bêtises, oui, la hauteur moyenne en fonction de la hauteur, oui voilà, c'est la hauteur moyenne des poteries par rapport, non c'est de ce côté-là, voilà, et par rapport à la hauteur de l'église, en fait sous la nef, hein, je crois. Et donc, je ne sais plus où j'en suis, j'essaye d'aller vite. Et donc, il y a quelque chose qu'on remarque, c'est, il faut juste voir que ça croît, c'est ça qui est important. Première chose qui est importante ici, c'est finalement, on s'aperçoit que les poteries sont d'autant plus hautes que l'église est grande. Alors là, déjà, et c'est là où il y a une première contradiction, on pourrait presque arrêter l'étude ici, en se disant, bah, de toute façon, l'effet acoustique, si l'on considère que l'amplification, c'est sans objet. Et c'est ce que disait Florio, parce qu'on ne peut pas entendre... Pour vraiment entendre une amplification, il faut avoir l'oreille collée au vase. Donc, ce n'est pas possible. Donc, quelque part, il y a quelque chose... L'amplification n'est pas, d'un point de vue acoustique, quelque chose d'important. Par contre, sur le plan symbolique, alors là, si vous avez des questions, vous pourrez les poser à Bénédicte tout à l'heure, mais effectivement, ça peut avoir... Chose importante. Il faut bien voir qu'ici, on est dans une recherche multidisciplinaire, donc on ne recherche pas forcément toutes les dimensions nous intéressent, et des résultats acoustiques peuvent très bien servir d'autres approches. D'autre part, un autre résultat est le nombre de pots par édifice. Et ça, plutôt, c'est quelque chose qui va aller vers le sens de l'intention acoustique. C'est-à-dire qu'on s'aperçoit que plus l'église est grande, plus le nombre de pots est important. Alors vous allez me dire, oui, bon, bah, c'est logique, c'est normal, etc. Pas tout à fait, parce que si c'était l'amplification qui était recherchée, ou simplement des aspects symboliques, on pourrait se contenter de quelques pots, je ne sais pas, dans le cœur, etc., à des endroits bien choisis. Or, pas du tout, on sent bien qu'il y a quand même une volonté. Florio avait déjà remarqué ça, il avait dit une vague proportion. Nous, on a remarqué qu'il y avait à peu près une loi en puissance. Alors, vous allez me dire, il y a une grande dispersion. L'abbaye de la Meilleraie, ici, qui a beaucoup de vases. Mais on a aussi introduit ici les églises suisses et puis allemandes. On s'aperçoit finalement qu'il y a quand même une progression. Et ça plaide vers le fait qu'il y a l'acoustique, c'est-à-dire le fait qu'on se doutait bien que, de toute façon, un vase ne pourrait pas avoir un effet acoustique et il fallait qu'il y en ait d'autant plus que le volume était grand. J'ai presque fini les résultats. Donc là, c'est pareil, les couleurs sont un peu bizarres. Les couleurs, on les voit un peu comme ça. Ici, j'ai noté les mesures de l'ensemble des vases. Vous avez ici la fréquence de résonance des vases et là, le nombre d'occurrences. Bon, ça va à 60 ici à peu près. Donc, vous voyez, ici, on a beaucoup, beaucoup de vases qui sont entre 100 Hz, enfin autour de 150 Hz, quelques-uns autour de 300 Hz. Mais en gros, la plupart des vases sont entre 100 et 400 Hz. Et ça, c'est aussi un résultat qui est important parce que c'est vraiment à l'endroit où la voix humaine a le plus d'énergie. Donc ça veut dire que quelque part, et ça, si vous prenez des poteries chez un potier Comme ça, vous faites une statistique, vous n'obtiendrez pas ça. Ça veut dire qu'il y a quand même, quelque part, un choix qui a été fait. Ce n'est pas difficile. Vous prenez un vase, vous chantez dedans, et vous entendez le son qu'il a. Vous tapez dessus le col, vous l'entendez. Donc, il y a un choix qui est fait. J'ai fait la même chose. En moyenne, par église, on trouve à peu près la même forme. Donc, je continue. Voilà. Alors, après, il y a deux types d'églises. Il y a des églises qui ont plutôt un type de peau, et des églises qui ont plutôt deux types de peaux. À Saint-Victor de Marseille, il y a même beaucoup de peaux. Nous, on a toujours trouvé des églises que j'appelais soit unimodales ou bimodales. Ce que l'on remarque, alors, bon, je vous passe les détails statistiques, mais je peux tester, en fait, je teste si, en fait, si je, même si je ne vois pas les peaux, si, je peux tester si, effectivement, je suis dans un échantillon représentatif de la variabilité d'un même pot, en fait. Donc, je l'ai testé à la Meilleraie, parce qu'on a un bel ensemble. Et puis, après, à Saint-Blaise, bon, là, par exemple, j'ai vraiment deux types de pots. Alors, les interprétations, un petit peu. Voilà le résultat. Vous voyez, de nos 20 églises, il ne m'en reste plus beaucoup. C'est-à-dire, entre toutes celles où les pots sont trop cassés, où il y en a trop peu, j'ai sélectionné. Et vous voyez que j'ai mis en orange, là, les couleurs sont bien restées, les églises qui sont plutôt de faible volume, qui sont plutôt unimodales, et puis des églises plutôt à plus fort volume, qui sont bimodales. C'est-à-dire que si vous regardez bien, vous avez ici, dans les églises bimodales, il va y avoir deux fréquences, deux pots avec deux fréquences différentes. Et si on fait le rapport entre ces fréquences, on s'aperçoit, si vous regardez 1,5, 1,60, 1,20, 1,20, 1,30, 1,30. Alors il y en a une qui n'est pas. Alors, le transparent en anglais, je suis désolé. Il y en a une église où on n'est pas très très sûr ici. Mais la plupart, si vous regardez l'accord entre les deux fréquences, vous apercevez qu'on est à peu près en moyenne à 1,37, c'est-à-dire que les deux fréquences sont accordées, les deux pots sont accordés entre une, pour les musiciens, entre une quarte et une quinte, si vous voulez, en gros. Et donc là, il peut y avoir une certaine, un certain souvenir des enseignements de Vitruve finalement. Et c'est assez marquant. Ça, c'est pareil, c'est un résultat qu'on n'attendait pas du tout, de voir à quel point c'était assez net. On s'aperçoit aussi que finalement, les fréquences de résonance sont plutôt hautes dans les bases, dans les petites églises, et un peu plus basses dans les grandes églises. Et ça, il y a un graphe juste après. Mais on s'aperçoit que quand c'est bas, quand c'est trop bas, par exemple 135 Hz, c'est moins intéressant pour la voix. Et finalement, comme par hasard, dans cette église, ben finalement, la moyenne veut dire quoi ? Veut dire que j'ai en fait deux pots, un pot qui est à 100 et un pot qui est à 170. Donc ça, en même temps, peut y avoir deux dimensions. Une dimension d'élargir la bande utile d'un point de vue acoustique et aussi une dimension un peu symbolique, ou enfin, tous les cas, tirée de Vitruve. Et pour finir, voilà, c'est un résultat assez récent. J'ai reporté sur ce graphe, en fait, ici, en fonction du volume des églises, la fréquence de résonance des pots. Et on s'aperçoit que, alors, il y a une dispersion assez grande, mais il y a un coefficient de corrélation, s'il n'était pas au carré, ici, ça serait 0,5. Vous voyez, vous avez une courbe ici de décroissance, ça décroît à peu près avec l'inverse de la racine carrée du volume, et que ça descend comme certaines lois, alors c'est ce que j'ai reporté ici, comme certaines lois acoustiques, c'est-à-dire que c'est comme si, intuitivement, finalement, on avait l'impression que plus le volume de l'église était grand, plus on avait, si on voulait contrôler le son, finalement, on devait utiliser des fréquences, des pots avec des fréquences plus basses. C'est comme si, d'accord, avec toutes les guillemets qui vont bien, mais quelque part, ce résultat est assez amusant et il faudrait le confirmer, évidemment, sur encore plus d'églises. Ici, vous avez les églises suisses et l'église allemande. Et donc, pour finir, la petite conclusion, voilà. Donc, je résume exactement ce que je viens de dire là, c'est-à-dire que les poteries sont positionnées le plus haut possible, donc l'amplification, ça c'est quelque chose, et là il y a encore du travail à faire, de discussion par rapport au texte, parce que l'amplification locale n'est pas possible. Par contre, le rôle symbolique, là, ça c'est beaucoup plus probable. Le nombre de pots augmente avec le volume, donc c'est plutôt la preuve d'une intention acoustique. Toutes les fréquences sont vraiment adapté à la voix. Donc ça, par contre, c'est très, très conforme au texte et à ce qui est dit. C'est-à-dire, c'est vraiment de mieux entendre. Donc, peu importe si ça a un effet ou pas un effet, mais le choix, en tous les cas, lui, il est bien celui-là. Et c'est ça qui est important. C'était vraiment le sens de notre recherche. La fréquence, et ça, c'était inattendu, par contre, ce quatrième point, c'est que le fait que la fréquence moyenne décroisse, alors là, ça voudrait dire, si c'était confirmé, qu'il y aurait en même temps, empiriquement, des connaissances, peut-être, sur ces effets-là. C'est-à-dire le fait que la réverbération en basse fréquence est plus gênante et donc on va avoir intérêt à mettre des vases plutôt plus basse fréquence. Ça serait, si vraiment on arrive à le prouver sur une large statistique dans le cadre d'un contrat européen, par exemple, avec 200 ou 300 ou 500 églises, alors là, ça serait carrément super. Mais bon, évidemment, faudrait le confirmer. Et puis ça, par contre, un résultat plus sûr, c'est cette histoire d'église bimodale ou modale, c'est-à-dire le fait qu'on va avoir le choix de deux poteries qui vont être accordées. Voilà. Alors, désolé, j'ai fait ça un peu vite, j'aurais pu prendre du temps. Voilà. Est-ce qu'on ajoute quelque chose?
Pour la conclusion, on va faire très vite. Donc, l'ensemble de ces travaux, ça, comme je le disais au début, ça représente plusieurs années de travail. Il y a une publication qui va sortir dans 2 mois, où vous aurez l'ensemble des résultats de ces recherches, à la fois sur la partie historiographique, archéologique, des cas de figure, des exemples, plus toutes les mesures acoustiques et tous les résultats qu'on a pu en tirer. Merci beaucoup pour votre attention. Merci.
Merci à vous deux. Merci beaucoup. On a 10 minutes pour les questions. Il faut en poser parce qu'on a pris du temps nos amis. Donc,
bon, donc, je poserai des questions purement acoustiques, que je ne suis pas archéologue, mais Jean-Christophe me connaît. Donc, puisqu'on ne connaît pas vraiment le rôle acoustique des peaux, qu'est-ce que tu penses de mesures qui seraient du type caractérisation du rastif? Enfin, je vais utiliser des mots de spécialistes, hein. La définition 50, le grossissement, qui pourrait un peu mieux expliquer le fonctionnement. Ça déborde peut-être de ce que tu as fait, mais qui expliquerait un peu mieux le fonctionnement de ces peaux, quoi. Comme le prétendait Jacques Le Guy, je ne sais pas si tu connais sa théorie, là, à propos du musée d'Orsay, où, paraît-il, il aurait placé 2000 peaux pour le musée, quoi, pour réhabiliter l'ancienne gare d'Orsay. Donc je ne sais pas ce que tu penses de mon idée.
En fait, donc là, pour te répondre là, sur les critères acoustiques, d'acoustique des salles, hein, puis c'est pour tout le monde, en fait... Nous, alors, c'est clair que dans ce qu'on a fait à Poitiers, on était vraiment dans une approche, vraiment sur l'intention, essayer de trouver des preuves à une grande échelle et essayer de confronter ça avec des preuves archéologiques ou dans les textes anciens. Et c'était vraiment notre point. Et alors, ce que je dois dire par contre, alors là, sur ce qu'a fait Florio et Desarnaud, surtout plus récemment en Suisse, lui, il a utilisé toute la batterie de tests actuels de l'acoustique des salles. Alors, les tests d'intelligibilité, le RASTI, pour les gens qui ne connaissent pas, c'est des tests objectifs d'intelligibilité, des tests sur la réponse temporelle qu'on a vue tout à l'heure, c'est-à-dire qui vise à regarder si le message est plus clair ou moins clair, etc. Et en fait, Desarnaud a fait 2 études in situ dans 2 églises. Malheureusement, il n'y avait pas beaucoup de vases et ils étaient, pour certains, l'une d'entre elles, beaucoup de vases étaient cassés. Donc, en fait, les résultats n'étaient pas très, très concordants. Donc, moi, je suis d'accord avec toi sur le fait que, d'ailleurs, c'est un des objectifs, mais peut-être à plus long terme, mais une fois qu'on aura sélectionné un édifice avec des vases vraiment en état, il faudra refaire toutes des batteries de tests comme ça, mais c'est un travail extrêmement fastidieux, en fait. Et ça ne me semblait pas le plus productif instantanément, étant donné déjà que ça avait été fait. Et puis ensuite, ce serait beaucoup d'énergie. Et je trouve que l'approche qu'on a utilisée nous a permis de mieux réaliser la recherche interdisciplinaire, à mon avis.
Mais ce que je dis, ce n'est pas pour critiquer. J'ai bien compris la démarche.
Je te réponds. Non, c'est pas bien sûr.
Moi, ce qui m'intéresse, c'est de comprendre comment ça fonctionne. Parce que Jacques Le Guy, parce que je vois une voûte là, il avait réhabiliter une ancienne cave à vin, je ne sais pas quoi, il avait raconté qu'il avait mis des pots.
Non, mais après, que des architectes ou des bureaux d'études ou autres, après, récupèrent cette idée-là et puis l'utilisent, c'est très bien. Enfin, je veux dire, c'est le contraire.
Je te remercie.
Je vous remercie de l'écoute. Au fur et à mesure de la conférence, j'ai essayé de je dirais, de recouper avec mes versions de l'acoustique, qui sont d'une autre origine, et puis les références en paramètres d'architecture. Alors, là, ici, on a une, à droite, on a une voûte romane, donc, avec trois fois trois pots, trois tours. Et puis, à gauche, c'est une voûte gothique à nervure, où il y a aussi quand même les... Alors, la propagation du son, enfin, lorsqu'elle arrive, ça dépend aussi si c'est... Dans les historiens, dans l'histoire, les pots s'expliquent par une recherche de modifier la propagation du son, soit du chant au cours des offices, soit la voix au cours de prêcher, puisque tout à l'heure, j'ai entendu dire aussi qu'il y avait des pots entre la chair et le cœur, où je crois que c'est... Donc, alors, si c'est entre la chair et le cœur, c'est évidemment pour prêcher, donc pour le prêcheur. Donc. Et puis, alors, moi, j'ai l'impression que lorsqu'il y a une cavité et que le son arrive sur une surface plane, la cavité peut être une atténuation où le son arrive dedans et s'amortit et ne repart pas. Bon. Et puis qu'il y aura un deuxième temps, une fréquence à l'intérieur du pot qui n'est pas la même que celle qui serait peut-être réfléchie à côté de l'orifice, ou réfléchie, puisque le terme de réverbération veut bien dire ce que ça veut dire. C'est-à-dire que c'est pratiquement jamais linéaire. C'est à peu près ça. Mais je voulais dire que ce soit une atténuation, malgré qu'à 340 mètres secondes, le son s'atténue. Dans les églises, ça pourrait être 10, 15, 20 mètres maximum. Et puis, comme vous avez... c'est peut-être pas une question que je pose. J'ai fait une interprétation aussi que les fréquences qui parviennent aux voûtes sont plus ou moins que des aigus vers le haut ou... Bon, pour ma part, j'ai une expérience qui me fait dire ça, c'est qu'un jour, dans la cathédrale de Chartres, dans le cœur de la cathédrale de Chartres, j'ai entendu un violoniste américain qui a émis des solos tout seul au transept, et puis il y avait vraiment une diffusion où, entre au bout de 10 mètres, de 20 mètres, ou de 30 mètres, ou de 40 mètres, ça ne pouvait pas être la même, la même harmonique ou la même tessiture de son, c'est-à-dire ce qui restait des fréquences de 20 à 50, de 30, de 5. Alors là, ça montre aussi que c'est quelque chose qui... Ça peut être mesurable en absolu, mais en relatif, c'est l'oreille de la personne qui voit si les fréquences des... Les femmes, les femmes entendent des fréquences plus hautes que les hommes, et ce sont elles qui ont l'écoute fine. Parce que nous, on chante les hommes entre basse et ténor entre 125 et 250, alors que les femmes, c'est entre 200 et 350, puisqu'il y a une octave. Enfin, vous le savez. J'en dis pas plus. Je ne veux pas faire un son.
Je vais répondre. Il y a trois points. Donc, il y a trois aspects hein, dans votre réponse. Alors, il y a d'abord sur la forme des voûtes et sur la forme. Alors, c'est vrai que, par exemple, comme on recherchait des normes de construction, on s'est intéressé au tout début, effectivement, de savoir si, par exemple, pouvait y avoir des rapports entre la position des pots à tel endroit et puis le comportement acoustique. Donc ça, au tout début, on a pensé et en fait, on a écarté. C'est pour ça qu'on a mis... Alors, effectivement, ça peut paraître un peu... surprenant pour des gens, on voit des édifices très différents, des positions très différentes, mais on s'est juste concentré sur le volume de l'édifice et puis le nombre de pots, parce qu'on n'a jamais trouvé, par exemple, des critères signifiants entre, par exemple, monastique, paroissial, ou une église qui serait de telle façon ou telle autre, ou une époque. Donc ça, on n'avait pas assez d'éléments. Ça, c'était le premier élément de votre question. Le troisième, c'était subjectif. Et le deuxième, c'était... sur les aspects subjectifs, sur le fait... Alors, le son se propage dans toutes les directions de la même façon. Alors après, et c'est, alors là, c'est une, la, l'intuition qu'on peut avoir. Et bon, c'est vrai que l'acoustique, c'est une science, et qu'une science d'ailleurs, dont l'unité de mesure est liée à l'audition. Et c'est une science qui, effectivement, peut se mesurer de façon objective, mais aussi que l'on perçoit. Et dans tous les textes anciens, bon, on a un peu passé sous silence, mais cette dimension de perception est une dimension importante. Et c'est vrai qu'on connaît... Enfin, c'est difficile... Ça a été difficile dans l'histoire de bien comprendre les phénomènes acoustiques parce que justement notre audition, elle est ce qu'elle est. Elle est très bonne, mais aussi à l'époque, comme vous disiez tout à l'heure, vous employez le mot linéaire pour quelque chose d'autre, mais c'est ça, elle n'est pas linéaire non plus. Et donc les sensations que l'on a ne sont pas nécessairement la réalité physique de la chose. Et donc en fait, dans la physique, les graves ont plutôt au contraire tendance à se propager beaucoup plus et s'atténuer beaucoup moins que les aigus qui s'atténuent. Donc votre expérience sur le violon, je peux pas expliquer, faudrait regarder. Mais par contre, vous pouvez avoir, selon l'endroit où vous allez être dans un espace, par exemple, un espace, effectivement, une zone fréquentielle qui va être un peu renforcée parce que vous allez être dans une, je sais pas, dans une niche ou enfin dans un coin un peu, voilà. Et donc il fait qu'il va y avoir un peu plus d'aigus qu'un peu plus de graves. Mais par contre, vis-à-vis de la physique, c'est pas le cas, ça peut pas être le cas. Voilà.
Non, monsieur, il faut qu'il y ait la différence entre moi j'ai chanté sous les nomes, les nomes, c'est-à-dire avant les clés, et puis comme vous avez dit modal, modal c'est tempérament.
Non, mais quand je parle de modal, alors de mode, hein, c'était d'un point de vue acoustique.
Je vais arrêter, je suis désolée. Il y a une question. Allez-y.
Tout à l'heure, vous avez dit qu'il y avait sans doute une symbolique vis-à-vis de la hauteur de ces vases.
Oui. Alors, on a parlé de deux choses. En fait, Jean-Christophe a parlé de la symbolique chez Vitruve, de l'emplacement des équias dans le théâtre, qui effectivement peut être interprété de cette manière-là, c'est-à-dire que la disposition, l'accord des différents équias qui sont placés dans le théâtre peut être mis en relation avec le symbolisme cosmique, la symbolique cosmique essentiellement. Donc il y a un article très intéressant, une théorie très intéressante qui a été développée sur ce sujet-là. Concernant les pots acoustiques médiévaux, il y a effectivement une dimension symbolique possible dans certains cas. On a réussi à le mettre en évidence à partir des quelques décors qu'on conserve associés au pot acoustique. Vous avez par exemple un pot acoustique qui constitue l'embouchure d'une trompette, d'anges, des anges à la trompette, par exemple. Oui, effectivement, j'ai des images. On va revenir un peu en arrière. Donc, des anges à la... Alors, il y a cet exemple-là, mais je... Voilà. Donc, ici, c'est un exemple un peu tardif. La peinture est tardive, puisque c'est une... Au départ, vous aviez un oculus percé, une fenêtre, qui a été ensuite bouchée. Et sur ce bouchage, ils ont réalisé une peinture. Peinture qui a été largement refaite. Alors, on a deux peintures qui se font face à face. Et largement été refaite. Donc, le couronnement d'un côté, l'Assomption de la Vierge, avec ces anges à la trompette qui entourent ce Clypeus. Alors, ce qui est intéressant, c'est que quand au XIXe siècle, on a nettoyé cette partie-là, on a découvert qu'à l'embouchure des pots, donc ici, donc vous avez un pot acoustique, un pot à l'intérieur de chaque embouchure, de chaque côté. Et surtout, quand ils ont décrouté la surface, ils se sont rendus compte que dessous étaient conservés d'autres anges à la trompette, mais qui étaient réalisés, eux, en stuc. Donc, on avait au départ un dispositif en stuc, donc en relief, avec un pot acoustique formant l'embouchure de la trompette. Et ces pots acoustiques, associés aux anges à la trompette, semblent indiquer une dimension symbolique tout à fait intéressante de la relation entre le chant des hommes et le chant divin, évidemment. Donc là, effectivement, il y a beaucoup de choses à développer. Pour la symbolique, je vous montre juste cet autre exemple. qui est donc un exemple très intéressant de peau. Vous avez le relevé archéologique en haut, la restitution en bas. Vous avez également toute une symbolique des nombres ici qui est reprise. Alors, on passe de la symbolique des anges à la symbolique des nombres avec le positionnement, donc avec des rythmes ternaires, la croix, différentes lignes de 8, 9, avec toutes les symboliques des nombres 8, 9 que l'on peut retrouver. Bon, c'est des choses qu'on a effectivement étudiées, analysées et qui vont être publiées. Sachant que bon, cette dimension symbolique, elle existe sans doute, mais elle n'est pas exclusive non plus.
Merci à vous deux, merci à tous. De toute façon, il y aura la publication de cet ouvrage qui nous permettra aussi de réécouter cette conférence. C'était très, très bien. Merci beaucoup. Bonsoir. Merci.